Parlons de Molière. L'auteur qui fait des pièces et qui les joue lui-même, s'il fait des chefs-d'œuvre et s'il les interprète, il devient alors et de toute évidence un auteur accompli.
C'est notre troisième épisode de la satire à la comédie morale, Molière et ses ennemis.
Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers.
Robert Hirsch dans Tartuffe. Après son retour de 1658 et dans les années qui ont immédiatement suivi, c'est Paris qui a d'abord fait le succès de Molière. Paris dont les mondains fréquentaient les deux salles successives de la troupe, le Petit Bourbon puis le Palais Royal, et l'invitaient souvent à jouer dans leur demeure. Curieusement, c'est au moment où le roi à Versailles scelle son soutien, entraînant celui de la cour, que Molière va se heurter à des difficultés. Habitué à être protégé d'en haut et dans le cercle libertin qu'il fréquente à rire sous cap, notre homme n'a peut-être pas bien vu en 1664 qu'en présentant son premier Tartuffe, il prenait un risque difficile à maîtriser. L'Église est en effet si divisée entre des positions théologiques et mondaines contradictoires qu'elle est devenue un champ de bataille et en y pénétrant, Molière va entendre siffler les balles à ses oreilles. Si ses adversaires remportent quelques succès, il ne faut pas exagérer, c'est déconvenu à lui. Au bout de 5 années passées en terrain miné, pendant lesquelles Molière s'était obstiné à vouloir faire jouer sa pièce, les représentations de Tartuffe deviennent libres en 1669. Le roi n'avait pas songé à l'exclure et Molière n'était pas homme à entrer dans le rôle du disgracié. Tout de même, il a fait l'expérience des limites que l'époque imposait à son talent. Il va encore camper des personnages qui défient le monde présent, Don Juan, Alceste, mais il les tiendra dans une ambivalence, une ambiguïté qui empêcheront toute lecture univoque.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec pour ce troisième épisode de notre semaine Molière, Georges Forestier, de Rechef, bonjour.
Bonjour.
Qui a édité avec Claude Bourqui les deux volumes du théâtre de Molière dans la bibliothèque de la Pléiade, et puis aussi toutes sortes de livres savants sur Molière et d'autres auteurs de l'époque, Racine, Corneille. Il y en a un dont le titre a déjà été cité et qui m'intrigue, il s'agit de Corneille, et vous y parlez de génétique théâtrale, Kesako.
Oh, c'est très simple, c'est l'étude de la genèse de l'œuvre. La genèse égale génétique, et donc il s'agit d'essayer de reconstituer à partir de ce qu'il dit, comment il a fabriqué ses pièces, et de ce qu'il dit, comment il s'est inspiré de sources historiques, et la combinaison entre les deux et le résultat final permet de voir progressivement le cheminement de la composition de ses pièces.
C'est pas une discipline diaphoresque.
Pas du tout.
Vous avez prouvé d'ailleurs.
J'espère bien, puisqu'on va faire de la génétique un petit peu tout à l'heure.
Alors, génétique de Tartuffe, génétique de Don Juan. Alors, avant de parler de Tartuffe, de ses versions successives, ça c'est de la génétique quand on étudie des versions qui se transforment.
Tout à fait.
On dit un mot du milieu libertin dans lequel Molière vit souvent depuis son arrivée à Paris en 1658.
Il y a deux milieux libertins. Il y a un libertin dur, d'athée, d'incroyant, etc., dont son meilleur ami Chapelle.
Mais dont le nom est prédestiné.
Voilà. Et donc, le fameux Chapelle, buveur, bon vivant, auteur de quelques poésies, était véritablement réputé pour son incrédulité, mais il n'était pas seul. Tout ce qui entourait le roi était incrédule, d'autre part. Les milieux galants parisiens oscillaient entre l'incrédulité et, pour la plupart, un catholicisme raisonnable, non dévot, non zélé, comme il disait, une sorte de religion presque naturelle. Molière reprend ces idées-là dans le monologue de Cléante dans son Tartuffe. Et alors, il y a cet aspect-là, il y a ce courant liberté, et puis en face, il y a le courant du catholicisme zélé, qu'on appelait à l'époque la dévotion, les dévots, c'est-à-dire ceux qui... L'origine de tout cela, c'est François de Sales avec son introduction à la vie dévote. C'est-à-dire, comment répliquer à l'austérité protestante tout en restant dans le monde. C'est-à-dire, comment vivre en Dieu, mais dans le monde. C'est ça la dévotion. Et l'un des points fondamentaux de la dévotion, c'est d'avoir un directeur de conscience. Lorsque Pascal meurt, on retrouve cousu dans son manteau, le fameux formulaire de Pascal, dans lequel il y a obéissance à Dieu et à mon directeur. Et c'est tellement important, ces directeurs de conscience, que Molière ne va pas résister, après avoir fait la satire de la conception traditionnelle du mariage dans l'école des femmes, à faire la satire de la conception de la dévotion avec la satire du directeur de conscience.
Parce que, un peu de génétique théâtrale, déjà, Georges Forestier, dans la première version de Tartuffe, en 1664, Tartuffe semble avoir été un homme avec un collet.
Oui,
un homme
il est très
du milieu ecclésiastique.
Les attaques les plus violentes qui sortent contre lui à ce moment-là, dans les semaines qui suivent, sont des attaques qui dénoncent le fait qu'il s'est moqué de la plus sainte pratique de notre religion, c'est-à-dire la direction de conscience. Donc Tartuffe, c'est un directeur de conscience. Sauf que, s'inscrivant dans la tradition de la satire depuis la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle, la satire anticléricale, Molière le représente gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille. C'est-à-dire que la première version de Tartuffe, c'est un vrai directeur de conscience au sens où il croit en Dieu, il veut être dévot, il se croit dévot. Sauf que, comme l'Église dénonce elle-même les hypocrites, depuis le Christ, on dénonce les hypocrites dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu, qui paraissent qu'en tous les dehors du croyant en Dieu, mais en fait qui sont guidés par les passions, la gloire, le désir charnel, la concupiscence, etc.
Au moment de cette première version, il ne s'est pas aperçu qu'il avançait en terrain miné, que les balles allaient siffler, que sa pièce était un peu inopportune cette année-là.
Il ne pouvait pas le savoir, parce que Louis XIV lui-même ne le savait pas. Parce qu'il est bien évident que pour pouvoir jouer la première de cette pièce à Versailles, à l'issue des grandes fêtes dites des plaisirs de l'île enchantée qui s'étaient déroulées 3 jours durant, donc dans les jardins de Versailles, et 4 jours encore après qu'une partie de la cour était partie, il fallait que le roi sache exactement le sujet de la pièce. Il a applaudi à la première représentation, il était ravi de ça, parce qu'il était lui-même semi-incrédule à ce moment-là, entouré d'incrédules, et voir une satire de la dévotion au moment où les dévots, ils ne pouvaient plus les supporter, parce que les prêtres les plus austères faisaient constamment en chair, et y compris à Versailles, lorsqu'il était là, enfin au Louvre, lors du carême de 1662, il avait entendu des critiques sur le comportement de ceux qui sont mariés et qui ont des relations adultères. Il savait très bien que c'était lui qui était visé. Mais il se trouve que, juste au moment où Tartuffe est représenté, il vient de promulguer un édit dans lequel il somme tous les membres du clergé de France de déclarer qu'ils sont hostiles au jansénisme. En gros, en deux mots, ce qu'on appelle le fameux formulaire. Et il se trouve que son ancien précepteur, qui est l'archevêque de Paris en titre, lui fait remarquer qu'il ne peut pas d'un côté se présenter comme le héros catholique contre la secte janséniste, contre l'hérésie janséniste, comme on disait à l'époque, et de l'autre côté, comme un homme qui applaudit à une satire de la dévotion qui est le cœur du catholicisme.
Alors quand l'archevêque de Paris, Ardoin de Péréfix, fait placarder un texte condamnant les thèses du Tartuffe, le roi est dans l'embarras. Mais Molière a plus d'un tour dans son sac. Dans toute cette affaire, il va montrer une grande obstination. Il veut absolument que sa pièce soit jouée. Si elle attire les foudres, il est possible de dresser un paratonnerre, de l'adoucir par une nouvelle version. Ici, la troupe attend Molière qui lui annonce les modifications qu'il a faite dans sa première version.
J'ai refait ma pièce. Enfin non, je ne l'ai pas refaite. Je l'ai travaillée, justement. Et maintenant, elle est prête. Et le roi m'autorise à la jouer. Que voulez-vous de plus ?
Et s'il avait dit non ?
C'était un risque. Je l'ai pris.
Oh. Pardonnez-moi, je croyais que c'était une répétition en costume.
D'abord, mon bon Dieu Croisy, ça n'est plus ton costume. Tartuffe n'est plus un homme d'église.
Quoi ? C'est une frotte ?
Oui. De plus, il ne s'appelle plus Tartuffe, il s'appelle Panuf.
Panuf ?
Quoi ? C'est pour sauver la rime ?
Oui. C'est un homme du monde, avec une épée, des dentelles partout, et un chapeau. Tout pareil à celui de Monsieur de Lamoignon.
Lamoignon, grande figure de la noblesse de Rome, parce qu'il y avait aussi une opposition à Tartuffe du côté parlementaire, et les parlementaires et les jansénistes, ça pouvait parfois être concomitant. Enfin, passons. Continuons notre affaire de génétique théâtrale de la première version, c'est pas grand-chose. De cette version adoucie que Molière prépare depuis 65 et Ici, on entendait une scène qu'on peut dater de 67, Molière pour rire et pleurer, le téléfilm de Marcel Camus. Qu'est-ce qu'on sait? En quoi la deuxième version est différente de la première?
C'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses, en fait, de la première version, même si on ne l'a pas conservée. Je me suis d'ailleurs, grâce à la génétique, amusé à la reconstituer.
Ah bon?
Sur Internet, elle est très facile à lire en se connectant au site qui s'appelle Molière 21. Paris-Sorbonne, Molière 21, on tombe sur la version que j'ai réécrite du premier Tartuffe. Le premier Tartuffe, c'est quoi? C'est le Tartuffe définitif, acte 1, acte 3, acte 4. On le sait parce qu'on connaît beaucoup de versions qui remontent au Moyen-Âge, du saint homme qui est recueilli par un homme dévot, et ce saint homme tombe amoureux de la jolie femme de l'homme dévot. Il va l'avoir une première fois, elle le repousse élégamment en lui disant « Vous êtes un homme dévot, vous êtes un saint homme, fouettez-vous, martyrisez-vous, oubliez cette tentation du péché et on n'en parlera plus ». Il essaye, sincèrement, mais il y revient parce qu'il ne résiste pas à cette tentation extraordinaire. Et la deuxième fois, la dame lui dit encore de essayer de reprendre sur elle, elle ne le dit pas à son mari. Et la troisième fois, elle le dit à son mari, qui ne la croit pas. Parce que c'est un saint homme. Et là, vous reconnaissez Tartuffe hein, dans ce que je raconte. Mais je ne raconte pas Tartuffe. Je raconte en ce moment ces récits qu'on a dans des romans ou dans des petites pièces du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, elle le dit à son mari, qui refuse de la croire. On va tendre un piège au dévot. Le mari fait semblant d'être parti, ou de dormir plus exactement. Et en fait, le problème, c'est que le dévot s'était méfié. Il avait fait prendre un somnifère au mari. Et au moment où elle appelle son mari pour l'aider de face aux entreprises du dévot, elle est obligée de réagir elle-même. Elle poignarde le dévot et le balance par la fenêtre. Voilà, ça c'est une version qu'on trouve dans un roman du Moyen-Âge. Donc en fait, on sait qu'il y a un élément en trois temps. Le vrai dévot qui recueille un saint homme, le saint homme qui tombe amoureux et qui fait sa déclaration. Et à la fin, on tend un piège au dévot. Oui, au vrai saint homme qui se manifeste ainsi, et on le chasse. Et c'est cette première version-là qui était Tartuffe, qu'on retrouve dans l'acte 1, l'acte 3, l'acte 4. Quand il commence à vouloir l'adoucir, eh bien, il commence par transformer son personnage. Il est en train de dire qu'il ne s'est pas attaqué au dévot ni au directeur de conscience. Il s'est attaqué au faux dévot. Et donc, il va fabriquer un Tartuffe.
Il s'appelle Panulphe.
Qui s'appelle Panulphe. Et surtout, qui va se révéler à la fin, dans le quatrième acte qu'il ajoute, qui va devenir le cinquième. Il commence par écrire un quatrième acte après ses trois premiers actes. Et ce quatrième acte, il présente un Tartuffe qui est un aventurier, qui a commis des crimes un peu partout, des forfaits, etc., et qui se déguise en dévot pour s'impatroniser dans les familles, épouser les filles, déshériter les fils, et coucher avec les belles-mères.
C'est formidable parce que ça permet quand même des interprétations pour les comédiens et des directions d'acteurs pour les metteurs en scène extrêmement différentes. On s'est amusé, nous aussi, on fait ce qu'on peut, on ne reconstitue pas des pièces qui n'existent pas, à juxtaposer la version Antoine Vitez, Gianni Gastaldi avec le regretté Richard Fontana qui joue Tartuffe, et la version Jouvet, c'est le maître avec dans le rôle d'Elmire, Monique Mélinan. Mais d'abord, la version la plus récente.
Comment de votre mal vous sentez-vous remise?
Fort bien. Cette fièvre a bientôt quitté prise.
Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nul de votre instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence.
Votre zèle, pour moi, c'est trop inquiété.
On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne.
C'est posé bien avant la charité chrétienne.
Comment de votre mal vous sentez-vous remise?
Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise.
Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence.
Votre zèle pour moi s'est trop inquiété.
On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne.
On s'est poussé bien avant la charité chrétienne.
Georges Forestier.
Oui, on voit bien dans les deux interprétations qui se recoupent de ce point de vue-là, combien ça a été un brûlot, effectivement.
Mais Georges Forestier, on sent bien là, quand même aussi, les deux axes possibles de jeu. Jouvet, très clérical. Jouvet pense que c'est une pièce religieuse. Il pense la même chose de beaucoup de pièces de Molière. Et Richard Fontana, c'est davantage l'homme de la seconde version adoucie, en collet, en dentelle, davantage chevaleresque.
On dirait, oui, en tout cas. J'avoue qu'il faudrait voir quand même la totalité de la scène et les comparer pour pouvoir porter un jugement. Mais vous avez raison, chez Jouvet, il y a une dimension religieuse. Et de ce point de vue-là, on peut imaginer que les différents Tartuffes de Molière jouaient de cette manière-là. C'est-à-dire de jouer d'une manière très confite. Et c'est pour ça que quand la pièce a été donnée, même si elle a été donnée qu'une fois, les jésuites et les jansénistes se moquaient mutuellement les uns des autres en disant « c'est vous qui êtes joué par Molière, non c'est vous qui êtes joué par Molière ».
Changement de plan, je sais que dans vos cours vous aimez mêler des données modernes aux données plus anciennes, et il faut maintenir l'agréable suspension avant que vous ne nous parliez de la version finale.
On s'est levé très tôt et de bonne humeur pour vous faire un morceau cynique et ravageur. Une chanson idiote, une petite histoire, une autre manière de vous faire fendre la poire. Si on les a bien lus, si on a bien suivi, il ne faudrait plus rire maintenant et ici de quelque religion ou dogme que ce soit, ni des races, ni des benêts, ni même des maladroits.
Vraiment, ce sont des truffes, ils sont abominables. Mais au chapitre des tartuffes, ils restent inégalables.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec les grandes bouches, c'est telle qu'on l'entendait tout à l'heure, on voit que le thème de Tartuffe prospère à travers les siècles, et la bouche auguste de Georges Forestier, notre invité avec qui nous parlons, du Molière, de la comédie morale et de la satire. Les ennemis de Molière vont finalement être désarmés peu à peu, va s'établir une certaine paix de l'Église, et en 1669, les représentations vont pouvoir avoir lieu librement.
Faisons de la génétique. Comment Molière a-t-il réussi à transformer son personnage? On l'a vu, on l'a dit à l'instant, il en fait un scélérat, un homme qui s'empare des maisons. Donc, il modifie très légèrement la fin de l'acte 4, où l'on découvre que Tartuffe, au moment où il est chassé, dit « mais c'est à vous d'en sortir de cette maison, puisque désormais, grâce à la donation, j'en suis propriétaire ». Donc c'est un Tartuffe qui prend le pouvoir. Donc Molière crée une situation bloquée pour pouvoir la faire débloquer par l'instance supérieure, le représentant de Dieu sur terre qui est le roi. Et de ce fait-là, évidemment, il se met sous la protection du roi. Il confirme plus exactement qu'il est sous la protection du roi et que c'est le roi, en quelque sorte, qui chapeaute cette pièce.
Parce que Orgon était devenu un honnête serviteur de la couronne. Exactement. Qui allait être injustement circonvenu par un comploteur.
Tout à fait. Et tout ça, c'est de la deuxième version, bien sûr.
Oui. Et la cassette, où il y a des papiers contre l'État, apparaît
dans la
génétiquement dans à ce moment-là.
Bien sûr, dans la deuxième version. Parce qu'il ne faut plus que Tartuffe, pour que Tartuffe passe, il ne faut plus que ce soit un homme d'église ou un directeur de conscience, puisque les directeurs de conscience, c'était des hommes qui avaient fait vœu de pauvreté, etc. Et de chasteté. C'est pour ça que dans la première version, il n'y a pas l'histoire d'amour. L'acte 2 est rajouté ultimement par Molière en 1667 et en 1669.
Ouf, voilà le dénouement avec l'exempt, version, Vitesse lui-même.
Ce monarque,
en un mot, a vers vous détesté sa lâche ingratitude et sa déloyauté. À ses autres horreurs, il a joint cette suite, et ne m'a jusqu'ici soumise à sa conduite que pour voir l'impudence aller jusqu'au bout, et vous faire, par lui, faire raison de tout, oui, de tous vos papiers dont il se dit le maître. Il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître. D'un souverain pouvoir, il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens. Et vous pardonne enfin cette offense secrète où vous a d'un ami fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne aux ailes qu'autrefois on vous vit témoigner en appuyant ses droits, pour montrer que son cœur sait qu'en moins on y pense d'une bonne action verser la récompense, que jamais le mérite avec lui ne perd rien, et que mieux que du mal, il se souvient du bien.
Et avec lui, ouf, nous vivons sous un règne, nous sommes dans un temps où par la violence, on fait mal ses affaires, le roi survient. C'est ça la comédie morale ?
Oui, parce qu'en fait, l'idée pour compléter la protection qu'il se prépare depuis des années pour pouvoir faire passer son Tartuffe, il modifie le personnage, mais il modifie aussi la signification de la pièce. Et alors que même qu'en 1663, durant ce qu'on a appelé la querelle de l'école des femmes, il expliquait que le but de la comédie, c'est de faire rire à partir des défauts des hommes, de se faire de la satire, etc., des comportements. Là, il écrit dès 64, au lendemain de l'introduction de la pièce, il écrit au roi en lui disant « Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle, et comme l'hypocrisie est l'un des plus grands vices, etc. » alors qu'il avait fait une satire de la dévotion, et des faux dévots au sens de l'Église, ceux qui croient croire, mais qui, au fond d'eux-mêmes, ne croient pas bien, en fait, il transforme tout, il dit « L'hypocrisie est un mal du siècle, tout le monde est hypocrite, il y a des hypocrites partout, et particulièrement chez les dévots, et le but de la comédie, c'est d'attaquer les vices et de les corriger. » Et là, il a inventé, par la force des choses, en quelque sorte, par le feu de l'action, la comédie morale, qui va devenir son image involontairement. Je veux dire, c'était pas son but, c'était pas sa conception de la comédie. Voilà.
Génétique théâtrale appliquée maintenant à Don Juan, dont on sait que les premières représentations s'emboîtent dans l'époque troublée de la polémique de Tartuffe. Alors là, chers auditeurs, accrochez-vous parce que vous allez nous expliquer, Georges Forestier, vous avez sans doute vu des contrats de vos notaires, vous produisez dans votre édition de Molière de la Pléiade la description des machines qui ont servi à la représentation de Don Juan. Vous avez lu les devis des peintres et des décorateurs. Eh bien, Don Juan a été fabriqué, mais oui, à partir de ces décors.
Oui. Alors, la raison en est simple, c'est que Tartuffe est interdit en mai 64. On avait prévu de le représenter en juin, juillet, août, de faire un triomphe avec cette pièce, on le savait. Il faut remplir les caisses du théâtre. Et donc, les comédiens vont profiter de l'absence des Italiens qui, vous le savez, partagent le Palais Royal comme ils partageaient avant le Petit Bourbon avec Molière. Comédiens italiens qui rentrent en Italie pour quelques mois et qui avaient l'habitude, quasiment à chaque carnaval, de représenter une pièce qui s'appelait Le Festin de Pierre. En italien, il convitato de Pietro, c'est-à-dire l'invité de Pierre, mais qu'ils ont maladroitement traduit par Le Festin de Pierre et c'est le titre qui s'est imposé. Et les comédiens ou Molière, ou l'ensemble, en discutant, ont l'idée de proposer à Molière d'écrire à son tour un festin de pierre. Mais comme chez les Italiens, c'est toujours des pièces à grand spectacle. C'est-à-dire avec des effets de machinerie, le tombeau qui s'engouffre dans la terre à la fin, des changements de décor. Et donc, ils conçoivent ce qu'on appelle une pièce à machine, telle que Corneille en avait donné l'exemple 15 ans plus tôt avec Andromède, puis quelques années plus tôt avec La Toison d'Or. Et ils conçoivent un ensemble dans lequel il y aura un changement de décor à vue, c'est-à-dire on voit tous les décors qui se modifient sous les yeux sans que le rideau tombe. C'est-à-dire, c'était prodigieux à l'époque. Hein. Celui qui avait inventé ça, on l'appelait le grand sorcier, l'italien Torelli. Et donc, on conçoit un spectacle de ce type. Et on a retrouvé, évidemment, chez les notaires, grâce à ces bons notaires qui nous gardent des archives et que la Révolution française n'a pas tout brûlé. Et donc, on a découvert chez les notaires. Le contrat passé chez Molière par la troupe, devant notaire, donc ils se sont déplacés chez Molière, au premier jour de décembre 1664, et avec deux peintres spécialisés dans les décors des grandes pièces dites à machine, et l'on voit qu'on commande 6 décors. Un pour le premier, un décor de palais, acte. Un pour le deuxième acte, un décor de plage et avec un bois qui sait ce qu'ils se font. Le troisième, un décor de forêt, avec à l'intérieur un changement de décor à vue. À l'intérieur du troisième acte, on voit dans cette forêt un temple, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire un magnifique tombeau en forme de temple, de chapelle. Et à l'intérieur de l'acte, le changement de décor fait qu'on se retrouve à l'intérieur du tombeau, du commandeur. Acte 4, on est chez Don Juan, et acte 5, on est dans une rue de la ville.
Mais l'inconvénient, c'est qu'on a ces décors et que Molière n'a pas écrit la pièce.
Voilà, avec le système à machine tel qu'il est pratiqué à Paris à ce moment-là, il faut que ce soit un décor par acte avec un seul changement de décor à vue au milieu du troisième acte. Et donc, Molière, à partir de là, va écrire sa pièce. Et il est contraint par les décors d'écrire sa pièce. On s'est souvent demandé pourquoi, au cours du quatrième acte, Don Juan restait chez lui, recevait Monsieur Dimanche, son financier. Alors c'est une merveilleuse scène de comédie, entre guillemets, naturelle, qu'il donne à son public, puisqu'on aimait Molière comme l'inventeur de la comédie naturelle, celui qui savait reproduire les usages de son temps en faisant la satire sur le théâtre.
Oui, mais c'est pas dans le fil de l'intrigue.
Mais exactement, ça ne sert à rien. Pourquoi Don Louis, le père de Don Juan, apparaît à ce moment-là, alors qu'il apparaît au premier acte pour faire des reproches à son fils dans toutes les autres versions, etc., etc. Tout simplement parce que là où, chez tous ses prédécesseurs, la visite de la statue chez Don Juan occupe une scène, chez lui, le décor doit occuper tout l'acte entier. Donc tout l'acte entier doit passer chez Don Juan. Donc il fait génialement, mais il fait du remplissage.
Revenons aux sources, monsieur le généticien du théâtre, si vous le voulez bien. En 1941, Jean Villard, encore un grand, avec la compagnie des Sept, tournait avec simplement des tréteaux. C'était une époque où on n'avait pas le moyen de se payer des machineries.
Je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête.
Tu le crois?
Oui.
Ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer que notre objet a chassé Elvire de ma pensée.
Ah, mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens et même dire à demeurer en place.
Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte?
Oh, monsieur!
Parle.
Assurément que vous avez raison, si vous le voulez. On ne peut aller la contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire.
Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments.
En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous les côtés comme vous faites.
Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne?
Ah, Dieu!
La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion. Et d'être mort, dès sa jeunesse, à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux, non. Non.
Non, c'est quand même l'homme qui dit non. Vous excuserez les craquements, l'enregistrement date du début de l'occupation. Jean Villard, qui n'a pas lu les contrats de notaire, il s'intéresse à l'homme du défi, parce que c'est quand même un homme de défi, dont Juan dit l'interprétation traditionnelle, celui qui veut construire sa vie avec des instants qu'il a choisis pour établir sa durée propre face aux autres hommes.
Oui, ça c'est le mythe romantique qu'il a inventé. Je veux dire, c'est à partir du Don Giovanni de Ponte et Mozart que les romantiques sont tombés dans la marmite Don Juan et y ont vu un homme de défi. L'histoire originelle de Don Juan, c'est l'histoire de l'homme, du pêcheur, qui remet toujours au lendemain le fait de vouloir s'amender et se convertir, comme on disait au XVIIe siècle. Il y a un leitmotiv dans la pièce de Tirson et Molina qui est « Tant large me loge fiage », ça veut dire « Il dit à Dieu, si grand est le temps que tu me laisses encore ». Et en fait, il va être rattrapé évidemment par le fait qu'il commet de plus en plus de forfaits. Toutes les versions antérieures à Molière, Don Juan, c'est un criminel. Il tue, il viole, il ne séduit jamais, il viole, toujours. Ou il ment, il promet le mariage, il couche avec et il s'enfuit. Molière fait de son Don Juan un courtisan de la cour de Louis XIV. Un peu incrédule, élégant, charmant, charmeur, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Don Juan de Molière est ambigu. Parce que il hérite quand même de certains éléments de ses prédécesseurs. L'incrédulité, ce qu'on va interpréter a posteriori comme étant du défi, alors que ce ne sont que des boutades de libertins qui couraient à travers l'Europe depuis des décennies. Et c'est un personnage, du coup, qui se retrouve très ambigu chez Molière, parce qu'il conserve à la fois des images du libertin scélérat qui va jusqu'au bout de ses pulsions et de ses passions, et en même temps, il est raffiné comme un courtisan de
Mais l'ambiguïté, vous l'expliquez toujours par la fabrique du théâtre.
Bien sûr.
C'est quand même étrange, cette discipline, la génétique théâtrale. Vous allez nous soutenir. Parlons de Corneille un instant pour faire le parallèle. Non pas que Molière et Corneille ont échangé leur écriture, on va laisser tomber là cette polémique, mais vous allez nous dire que, par exemple, ce qui comptait pour Corneille, c'est la fin, rien que la fin.
C'est de là qu'il partait. Il écrivait à rebours. Tout le monde connaît Cinna. Les sources de Cinna, c'est Auguste apprend une conjuration est en cours, il convoque les conjurés qu'il fait prisonniers et il pardonne. Donc ça veut dire que Corneille a dû reconstruire tout ce qui précède. Inventer pourquoi il y a une conjuration, pourquoi elle était trahie, par amour évidemment. Inventer un personnage féminin qui est l'âme de la conspiration, tout ça c'est ce qu'il met avant. Donc il faut que le public ait l'impression qu'on passe d'un début à la fin, que tout s'enchaîne selon un système de cause à effet, alors que lui, comme un auteur de romans policiers, il est parti de la fin.
Et Britannicus, c'est la même chose.
Exactement.
C'est la mort
Britannicus
de
Racine, bien sûr. C'est la mort de Britannicus.
Mais c'est complètement renversant, la génétique théâtrale.
Mais oui.
Merci à vous, Georges Forestier. L'émission a été préparée par Martin Cellier, qui a suivi quelques cours de génétique théâtrale à l'université Paris-Sorbonne, par vos soins, la réalisation Stéphane Ronxin. Et la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet.